À quelques mois du vote de la loi sur les langues officielles, la communauté francophone se mobilise pour faire connaître la situation sur la réalité linguistique vécue en milieu minoritaire. L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada ont mené, depuis septembre dernier, plusieurs consultations afin de dresser un état global de la situation du post-secondaire en français en milieu minoritaire. Ces consultations se sont terminées les 24 et 25 mars dernier par des états généraux. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Martin Normand, directeur de la recherche stratégique et des relations internationales pour l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Bonjour Martin.
Bonjour.
Comme je le disais en introduction, ces deux associations ont mené un travail titanesque pour dresser un bilan de la situation linguistique. Alors en introduction, est-ce que vous pouvez nous présenter la démarche? Quel est le diagnostic qui vous a conduit à entamer cette étude et les consultations?
Bien, le diagnostic pour commencer, c'est que plusieurs des établissements postsecondaires dans la francophonie canadienne, et ça ici on comprend autant les universités que les collèges, mettaient sur la place publique certains défis qu'ils avaient pour continuer à remplir leur mission respective, leur mission éducative bien évidemment, mais aussi ils remplissent toutes sortes d'autres fonctions et contribuent à l'épanouissement des communautés dans lesquelles elles sont inscrites. Donc, il fallait prendre un pas de recul pour être capable de dresser ce portrait-là de façon pan-canadienne des enjeux du secteur postsecondaire. Et évidemment qu'en toile de fond, il y a eu tous les grands enjeux médiatisés qu'on a entendus les derniers mois, le campus Saint-Jean, l'Université Laurentienne. Donc, évidemment que devant de telles situations, il y avait une urgence d'agir. Et c'est dans ce contexte-là, finalement, que rapidement, l'idée des états généraux sur le postsecondaire a germé et on l'a annoncé, la démarche, en avril 2021. Et le but, c'était vraiment de faire une grande consultation pan-canadienne pour faire un état des lieux du postsecondaire, mais aussi pour esquisser des pistes de solutions pour régler ces enjeux-là. Et pour ce faire, on a aussi décidé de s'allier à la Fédération des communautés francophones et acadiennes, justement parce que, comme les établissements sont des joueurs importants dans leur communauté, il est important qu'on entende la voix des communautés et qu'on comprenne leurs besoins et leurs aspirations à l'égard du postsecondaire. Donc, c'est pour ça que les deux associations se sont rassemblées pour mener cette démarche.
Donc, vous venez de le dire un peu en partie. Donc, quels objectifs étaient fixés à ces états généraux?
Bien, le premier objectif, c'était de faire un état des lieux. Donc, avoir un portrait général des enjeux qui affectent la pérennité possible des établissements postsecondaires francophones en milieu minoritaire au Canada. Et donc, on a monté toute une série d'ateliers thématiques et de forums citoyens dans les derniers mois qui nous ont permis d'aller chercher là, ces enjeux-là et d'aller chercher de l'information sur la façon dont ces enjeux-là se vivent dans nos établissements partout à travers le pays. Le deuxième objectif, c'était d'esquisser des pistes de solutions cohérentes, systémiques et durables pour justement asseoir et assurer la pérennité des établissements postsecondaires. Je vous dirais que dans un objectif parallèle à tout ça, c'est de garder le postsecondaire à l'esprit des décideurs publics et de la communauté, s'assurer que les gens, autant dans la communauté, s'approprient ce débat-là et comprennent l'importance d'avoir des institutions postsecondaires fortes et agiles dans leur communauté, mais qu'aussi que les décideurs publics à tous les paliers gouvernementaux comprennent qu'ils ont un rôle à jouer et profitent de la présence et de l'activité des établissements postsecondaires.
Avec tous ces retours que vous avez eus, qu'est-ce qu'il ressort de ces consultations? Quelles sont les aspirations des francophones?
Ben, je voudrais que le premier point de départ là, pour commencer à trouver quelles sont les aspirations, c'est qu'on a fait un premier sondage en juin dernier. Donc, les consultations publiques ont commencé en septembre, mais ont été précédées d'un sondage pour essayer de commencer à cibler quelles étaient les principales préoccupations des communautés, des intervenants du secteur postsecondaire. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la liste des grandes thématiques qui ont été couvertes dans chacun de nos ateliers. Et ce qu'on entend comme aspiration, c'est par exemple du côté des étudiants, de la population étudiante, c'est qu'on souhaite avoir des établissements qui sont accessibles, qui offrent des programmes que les jeunes recherchent et qui offrent des milieux de vie épanouissants et enrichissants, par exemple. Si on regarde du côté des professeurs, bien, c'est de trouver des professeurs, des chercheurs dans nos établissements. C'est d'être capable de mener leur mission éducative, de mener de la recherche en français, de développer des ressources pédagogiques et d'être pour eux aussi dans un milieu épanouissant. Donc ça, c'est pour deux les composantes essentielles de nos établissements, les étudiants, la population étudiante et la communauté de professeurs. Il y a aussi un des grands constats, et celui-là, c'est un constat transversal, c'est celui de la collaboration. Autant la collaboration interinstitutionnelle, donc comment développer des liens plus forts entre les établissements de la francophonie canadienne pour peut-être imaginer des programmes offerts de façon conjointe pour faciliter la mobilité des étudiants et des professeurs entre les établissements. Il y a toutes sortes de projets qui pourraient être imaginés, mais qui se butent à plusieurs obstacles politiques et administratifs. Donc, comment imaginer ces solutions-là? Mais aussi, la collaboration entre les établissements et les communautés pour que, justement, les communautés se reconnaissent dans les établissements qui les desservent et que les établissements offrent des programmes qui permettent de combler des besoins de main-d'œuvre immédiats dans les communautés. Donc, pour qu'il y ait une adéquation entre l'offre de programmes et les besoins de la communauté. Je vous dirais que le dernier grand morceau, c'est tout ce qui est la relation avec les gouvernements. On souhaite, autant de la part de la communauté que des établissements, que les intervenants gouvernementaux comprennent le rôle particulier que jouent des établissements postsecondaires dans les communautés minoritaires francophones et que en vertu de cette reconnaissance-là, de leur rôle supplémentaire qu'ils jouent, que les modes de financement soient revus de façon à ce qu'ils soient mieux appuyés pour remplir ces fonctions supplémentaires.
Ce que vous dites là est très intéressant. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces états généraux? Quelles sont les conclusions ou comment vous exprimez toutes ces revendications pour que les gens prennent en compte ce qui a été dit?
Oui. Bien, je vous dirais qu'on n'en est pas encore aux conclusions. Le processus est encore en cours. On a donc fait 11 événements publics, 7 ateliers thématiques, 4 forums citoyens régionaux pour aller recueillir l'information. On a eu le sommet auquel vous avez fait référence les 24 et 25 mars. Et là, on s'attelle à la rédaction du rapport final. Et donc, on a une équipe de rédacteurs et une équipe de conseillers qui vont prendre la somme d'informations qui ont été recueillies dans les derniers mois et qui vont écrire un rapport qui va contenir à la fois un portrait général des enjeux pour ce qui est du premier objectif, qui va proposer des recommandations pour répondre à ces enjeux-là. Donc, ça rejoint notre deuxième objectif. Mais aussi, pour essayer d'esquisser un plan stratégique auquel les divers intervenants intéressés par le postsecondaire pourraient adhérer. Et donc, donner une cohérence aux recommandations. Parce que oui, on a eu beaucoup de témoignages, on peut avoir beaucoup d'idées de recommandations, mais si on veut pouvoir projeter les établissements dans l'avenir, il faut aussi avoir une vision cohérente de ce que sera le postsecondaire dans 5, 10, 20, 30 ans dans la francophonie canadienne. Donc, ce plan-là servira à donner une cohérence aux recommandations. Et ça, le plan, on prévoit dévoiler le rapport final au début de l'automne 2022.
Alors, vous faites ma transition avec la prochaine question. Donc, quels sont les défis auxquels le postsecondaire est confronté ou sera confronté dans les prochaines années?
Il y a de nombreux défis. Il y en a un qui est de continuer à convaincre la population qui a un bien fondé à continuer aux études postsecondaires en français. Parce que dans l'esprit de plusieurs, peut-être que de pouvoir accéder au marché de l'emploi, c'est plus facile d'y arriver si on obtient un diplôme d'un établissement postsecondaire anglophone. Surtout si on veut s'inscrire dans le marché du travail en anglais. Mais si on veut continuer à travailler en français, qu'on veut desservir notre population francophone locale, il faut continuer à convaincre que nos établissements sont forts, offrent des programmes pertinents et permettent de faire une transition vers le milieu du travail et de contribuer à l'épanouissement des communes. Donc, ça, c'est un des premiers défis, un défi de reconnaissance de la valeur de nos établissements, mais aussi de la connaissance de ce qui est offert. Donc, ça, c'est un des premiers défis. Un deuxième défi, on se le cachera pas, qu'il y a un défi du financement, parce que il y a, comme je vous le disais, nos établissements remplissent des fonctions supplémentaires que ceux de la majorité n'ont pas à remplir. On forme des professionnels en français. On s'assure, nos établissements s'assurent que le bilinguisme individuel en français-anglais continue de croître au Canada. C'est pas une mission que se sont dotés les établissements de la majorité. Donc, il y a plusieurs de ces morceaux-là qui font en sorte que nos établissements, qui sont aussi plus petits, hein, c'est difficile pour un petit établissement de compétitionner contre des très grands établissements de la majorité et de se démarquer dans ce marché-là. Donc, il y a tout un travail à faire pour mieux reconnaître par les pouvoirs publics les fonctions supplémentaires et les besoins particuliers des établissements. Donc, ça en sera un. Mais je vous dirais que le principal défi, ce sera celui de la collaboration. Il y a de grands défis. C'est ce que tout le monde souhaite, d'accroître la collaboration dans le secteur postsecondaire. Mais il y a de grands défis qui subsistent, des défis politiques, des défis administratifs. Ça peut être difficile pour deux établissements dans des provinces différentes de collaborer sur un programme conjoint, notamment dans des professions qui sont normées par des ordres professionnels. Parce que ça peut vouloir dire que le programme doit être évalué et validé par deux ordres professionnels dans deux provinces différentes qui fonctionnent essentiellement en anglais. Donc, ça devient difficile, par exemple, pour certains programmes, d'imaginer de la collaboration, mais c'est pas impossible. Il faut se doter de moyens qui permettront de faciliter les collaborations interinstitutionnelles. Donc, ça, c'est un chantier de l'avenir sur lequel nous, à la CUFC, on veut continuer à travailler. Ça fait partie de nos priorités d'accroître la collaboration. Mais il faut être conscient des défis pour mieux agir sur les enjeux.
C'est un échange passionnant. Alors, pour conclure, dans les prochains mois, il y aura des débats et un vote au Parlement concernant les langues officielles. Alors, que faudrait-il, selon vous, pour améliorer la situation actuelle?
En termes de postsecondaire, je vous avoue qu'à la CUFC, on était content de voir que le gouvernement fédéral a pris l'initiative de reconnaître le continuum de l'éducation dans la loi sur les langues officielles. Le continuum d'éducation, c'est de reconnaître qu'il y a toute une gamme de services en français qui s'offrent en éducation de la petite enfance jusqu'au postsecondaire et que le gouvernement veut agir pour s'assurer que le postsecondaire puisse continuer à remplir sa mission, que les établissements demeurent forts et agiles pour répondre à cette mission-là. Mais les enjeux du postsecondaire ne se résoudront pas tous à travers la loi sur les langues officielles. Il y a d'autres mesures administratives que le gouvernement fédéral peut adopter. Il a déjà annoncé, par exemple, une enveloppe de 121 millions pour appuyer les établissements postsecondaires. On attend de voir le type de projet qui sera financé. Il n'y a toujours pas d'annonces qui ont été concrétisées sur la façon dont cet argent-là sera distribué. Donc, on voit que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer et ça peut se faire par de multiples canaux. La loi sur les langues officielles en est un parmi tant d'autres.
Merci pour cet échange passionnant. Donc, je rappelle, Martin Normand, que vous êtes directeur de la recherche stratégique et des relations internationales au sein de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Donc, on suivra ce dossier avec attention et on attend votre retour pour valoriser et faire connaître les décisions qui seront prises à ce sujet.
Tout à fait. On pourra s'en reparler à la publication du rapport.
Absolument.